Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas comment commencer ce préambule. Ce n'est pas la première fois que je reçois mon invité. C'est un auteur très connu. Et pour reprendre une petite phrase de son attaché de presse, quand j'ai lu son livre, j'ai eu envie de mettre mon portable au micro-ondes. Alors il vient de me dire hors antenne, non, ne faites pas cela. Bien évidemment, il faut être prudent. Son dernier ouvrage, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité vraie. Ça fait dresser les cheveux sur la tête, c'est fascinant, c'est explosant et explosif. En tout cas, j'ai eu du mal à en sortir. Je me suis posé beaucoup de questions. Alors le mieux pour y répondre, eh bien, c'est de recevoir tout de suite mon invité, Monsieur Bernard Minier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous et ses deux ailes pour votre dernier livre M, Le bord de l'abîme, aux éditions Ixo. Alors, votre livre se passe à Hong Kong avec une héroïne qui s'appelle Moira Chevalier.
Oui.
Alors, apparemment, vous avez exploré Hong Kong de fond en comble, hein, des quartiers d'affaires aux endroits les plus lugubres ou un petit peu plus glauques. Pourquoi tout d'abord Hong Kong ?
En fait, oui, j'ai passé pas mal de temps à Hong Kong. J'ai exploré en effet cette ville de fond en comble, comme vous l'avez dit, surtout dans les endroits où ne vont pas les touristes, parce que c'est forcément beaucoup plus drôle.
Ben oui, bien
oui
sûr.
Et puis oui, moi j'avais envie d'être immergé dans cette réalité-là, ouais, qui est la réalité des Hongkongais, hein, la réalité quotidienne.
Ouais.
Pourquoi cette ville ? Eh bien, au fond, c'est le sujet qui a commandé le lieu, puisque c'est un roman qui traite, comme on va le voir, des nouvelles technologies, du monde technologique dans lequel on entre, et d'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, c'est un match qui se joue essentiellement entre les États-Unis et l'Asie, la Chine en particulier, et la Chine a pris de l'avance. Donc, on a ce personnage de Moira, qui est une jeune Française, qui est spécialiste d'intelligence artificielle, qui est embauchée par une entreprise qui s'appelle Ming, qui est basée à Hong Kong, parce que ça se passe là-bas aujourd'hui, parce qu'ils ont pris tellement d'avance, parce qu'ils sont en train de conquérir le monde à travers, non seulement ça, mais à travers le commerce, à travers la technologie, à travers beaucoup d'autres choses. Et j'avais envie de parler de cette réalité-là. Donc je me suis rendu sur place. Ça a été un vrai choc, découvrir cette ville vertigineuse à tous égards, presque une ville de science-fiction, mais en même temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe, avec des gratte-ciels qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on peut voir à New York ou à Chicago ou à Vancouver, sauf dans un quartier qui s'appelle Central, qui est le district financier. Tout le reste, ce sont des tours, des espèces de ruches absolument hideuses, monolithiques, des termitières géantes qui se dressent vers le ciel, dont on se demande comment elles tiennent debout, qui sont couleur terre ou qui sont grises. Donc c'est vraiment une ville oppressante et fascinante, évidemment, pour un auteur comme moi. Mais c'est un enfer sur terre pour quelqu'un qui vit, je pense.
Oui. Alors, Moira Chevalier, j'ai envie de parler rapidement de M. Servaz. Hein, c'est l'antithèse, hein, ça n'a rien à voir. L'autre, Servaz, est un terrien bien ancré dans son monde. Et Moira Chevalier, eh bien, c'est la spécialiste, on va dire, de l'intelligence artificielle. En tout cas, elle va travailler dans ce sens. Plein de questions me sont venues comme ça à l'esprit en lisant votre livre, et notamment on s'aperçoit que bon, nous on a Facebook, on a Google, eux ils ont d'autres sites internet, et quand je disais que on pensait mettre notre portable dans le micro-ondes, c'est parce qu'on s'aperçoit que finalement dans votre livre on sent une forme d'inquiétude, une forme de pessimisme, chose qu'on avait un petit peu ressenti, si ma mémoire est bonne, à la fin du putain d'histoire en 2015.
Exactement.
Que finalement, vie privée ou vie privée professionnelle, finalement nous n'en avons plus, nous allons être des éléments, des numéros codés, codifiés. Il y a une forme de paranoïa qui peut s'installer.
C'est vrai que c'est exactement dans la continuité de ce qu'était une putain d'histoire, même si les deux récits sont totalement différents,
bien sûr, tout à fait.
Les personnages également, c'est des préoccupations qui étaient déjà apparues dans ce roman-là, qui maintenant a 4 ans,
oui,
qui se passait à Seattle, enfin dans des îles au large de Seattle, et à Seattle qui est comme Hong Kong, comme oui. une ville ultra connectée, une ville à l'avant-garde de toutes ces technologies. Et je posais déjà, en effet, à l'époque, la question des réseaux sociaux, de la fin de la vie privée, de la transparence et du fait qu'on était tous, toutes nos données personnelles, toutes nos vies étaient scrutées par ces grandes antennes et ces géants de l'Internet. Donc, 4 ans après, on retrouve un peu les mêmes thématiques et je me suis aperçu à quel point les choses se sont accélérées, à quel point ça va vite, à quel point ça change. La préoccupation à l'époque d'une putain d'histoire, c'était que les géants de l'Internet américains soit travaillent avec la NSA pour espionner les citoyens. Et là, on est de l'autre côté, on est avec les géants d'Internet chinois qui sont Baidu, Alibaba, Tencent, etc. Et ouais. Ming, donc cette firme mystérieuse et imaginaire. Et on sait qu'ils sont inféodés à l'État chinois également et au Parti communiste chinois. Et ça pose en effet la question de la vie privée, du libre arbitre aussi, parce que toutes ces applications qu'on a de plus en plus dans nos téléphones... Moi, je suis rentré il n'y a pas longtemps de Bordeaux, j'ai dans le TGV, tous les gens avaient le nez sur leur
c'est
écran.
Incroyable. C'est incroyable,
c'est
incroyable.
C'est absolument vertigineux et délirant. Je veux dire, il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Mmh. Et là, aujourd'hui, tout le monde est collé à son téléphone tout le temps.
Et vous avez remarqué la première question, quand on prend un téléphone pour appeler quelqu'un, on dit rarement bonjour, ça va, on dit « t'es où ?»
Oui, c'est ça, ouais, exactement.
C'est terrible.
Et à chaque fois qu'on allume son téléphone, on envoie des paquets de données personnelles
dans
ce qu'ils appellent le cloud, dans le big data, qui sont exploités par ces géants d'Internet, qui nous connaissent mieux, je pense, qu'à aucune époque l'humanité n'a pu être connue par qui que ce soit. Dans les siècles, au cours des siècles passés, et même au cours du XXe siècle, les sociologues utilisaient des statistiques, mais c'était toujours sur des pans de la population qui étaient extrêmement restreints. C'était des panels de 1000 ou 10 000 personnes, ça n'allait pas au-delà. Les philosophes bâtissaient des systèmes sur des connaissances finalement très parcellaires. Aujourd'hui, quasiment la quasi-totalité de l'humanité est scrutée au quotidien par ces géants de l'Internet. C'est effrayant.
C'est effrayant. Alors, dans votre livre, il se passe de drôles de choses dans ce centre dirigé par M. Ming. Des gens disparaissent, se suicident, meurent. Bref, et dès le départ, on sent que Moïra Chevalier se sent épiée, elle se sent même espionnée. La paranoïa, le doute s'inscrit dès le départ. Alors bien sûr, on ne va pas parler de tout ça, on ne va pas parler de l'énigme et de l'histoire par elle-même, mais vous avez installé dès le départ un climat anxiogène. Parce que est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à cette intelligence artificielle et par rapport au monde, au Congo dans lequel vous avez évolué?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a un an, quand j'ai décidé de parler de ce sujet dont j'entendais parler partout, et donc j'ai décidé d'aller voir un peu ce qui se passait vraiment. Je me suis énormément documenté, j'ai lu à peu près tout ce qui est paru sur le sujet, tant en livres que hors série de magazines, que articles de journaux, etc. J'ai entendu des spécialistes, je veux dire, voilà, j'ai découvert le panorama dans sa totalité, et là, j'ai quelque chose d'absolument effrayant et qui ne peut que nous rendre paranoïaques. On a tous fait l'expérience, encore une fois avec son téléphone, d'avoir une conversation avec des amis, et ensuite de recevoir des propositions publicitaires en rapport avec les thèmes qu'on avait abordés au cours de cette conversation,
c'est
sans
incroyable.
Qu'on ait rien demandé à personne.
C'est vrai.
Donc on est tout le temps... donc cette paranoïa, c'est même plus de la paranoïa, du reste. C'est un réflexe de défense tout à fait naturel et quasiment sain même. On doit garder une certaine prudence, une certaine distance par rapport à tous ces dispositifs.
Ouais.
Et en effet, dès que Moïra arrive à Hong Kong, dès les premières minutes où elle monte dans une voiture qui est une Tesla du reste et qu'elle entend une musique qui lui est familière passer dans la voiture, ça ce sont ces anecdotes là je les ai puisées dans la réalité, je ne les ai pas inventées. C'est vraiment arrivé à des personnes et donc en effet elle développe très rapidement une forme de paranoïa, mais est-ce qu'à un moment, à partir d'un certain degré de la paranoïa ne devient pas un réflexe défensif sain, finalement. C'est ça la question. Est-ce qu'on a le droit de ne plus être paranoïaque? Est-ce qu'on peut... Alors quand je suis arrivé à Hong Kong, en plus Hong Kong c'est une ville, c'est une ville comme j'ai dit, où on se sent sans arrêt plongé dans une espèce de grouillement. d'humanité, de population, parce que Hong Kong, c'est 7 millions d'habitants concentrés sur quelques centaines de, sur quelques milliers de kilomètres carrés. C'est Mongkok, par exemple, et Jordan, qui se trouve à Kowloon, qui est une partie de Hong Kong dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps.
Oui.
C'est le district le plus densément peuplé de la planète. C'est 130 000 habitants au kilomètre carré. Donc, on est tout le temps plongé dans cette humanité, on est tout le temps bousculé, on est tout le temps avec toute cette population, et en même temps, toute cette population, elle est comme le reste du monde, et surtout Hong Kong, elle est connectée. Donc on a vraiment ce sentiment de ne plus être d'aliénation, de ne plus être un individu, sinon juste un atome au milieu de millions d'autres atomes, comme ça. Et en effet, à partir de là... C'est Big Brother, on a vraiment l'impression d'être observé tout le temps et d'être finalement un numéro, quoi.
Oui.
Et c'est à Hong Kong, cette sensation-là est évidemment encore plus prégnante, et compte tenu du sujet qui était celui du roman,
oui.
Voilà, l'état d'esprit de Moira, c'était en effet un peu le mien quand j'étais là-bas, oui.
Alors, votre livre, on le dit, pose de vraies questions. Quel monde aussi allons-nous laisser à nos enfants? On s'aperçoit aussi que finalement, les Chinois sont bien plus préparés, bien plus au-delà de ce que l'on peut penser et croire. C'est un monde même terrifiant, hein, froid, tout à fait, déshumanisé, mais... Est-ce que les Chinois eux-mêmes, c'est-à-dire, bon, hormis les dirigeants, les Chinois eux-mêmes ont conscience de ça ou sont ancrés dans cette réalité, virtuelle et de réalité virtuelle, oui.
Alors, déjà, il faut toujours se méfier des généralités. C'est le rôle du romancier de ne pas se contenter de généralités, au contraire... de s'intéresser aux individus. Hein.
Milan
Kundera qui disait toujours que l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité, que chaque roman dit au lecteur les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Donc il faut se méfier de ces formules, les Chinois, les Français, etc. Mm. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il y a en Chine un consensus aussi bien sur le déploiement de l'intelligence artificielle que sur, par exemple, les manipulations génétiques, etc. C'est-à-dire que en Chine et Hong Kong, la communauté, la famille déjà, et plus largement la communauté, est plus importante que l'individu. Chez nous, quand on réfléchit au bien commun, on réfléchit d'abord à ce que la société peut nous apporter, on défend nos droits, on défend nos acquis sociaux et on demande plus de justice sociale. Les Chinois ne pensent pas de la même façon. Pour eux, ils se posent d'abord la question de savoir ce qu'ils peuvent apporter à la communauté plutôt que ce que la communauté peut leur apporter. Mm-hmm. Après, il faut nuancer. Hein.
Bien sûr.
Ce sont des généralités, évidemment. Chaque individu est différent. Mais il y a quand même cet état d'esprit-là qui fait qu'il y a consensus en Chine sur les manipulations génétiques, sur les déploiements de l'intelligence artificielle, sur toutes ces technologies. Ils n'ont pas les réserves éthiques que nous, on peut avoir par rapport à ça dans la vieille Europe. Et c'est pour ça que ce train de l'intelligence artificielle, ce train du nouveau monde qui est en train de se construire, est lancé à pleine vitesse, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, alors que nous, on est en train de le regarder passer en se demandant si on va monter dedans.
Oui.
Mais par exemple, sur la question des manipulations génétiques, il y a un philosophe anglais qui s'appelle Nick Bostrom, qui enseigne à Oxford, qui estime que si les Chinois continuent à effectuer la sélection des embryons après séquençage pour améliorer les capacités, d'ici une ou deux générations, on aura une population qui sera plus forte et plus intelligente que les autres. Et ça pose des problèmes immenses, évidemment. Oui.
Vous savez, je crois que c'était Alain Perfit qui reprenait une phrase de Napoléon qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ».
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, du reste, c'était le titre de son ouvrage.
Tout à fait.
Qui est dans
tout
les
à
années
fait.
70.
Et oui, oui.
Il avait vu juste. Et le réveil eut lieu. Il faut savoir que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'aucune domination, parce que l'Europe, l'Occident, a pendant très longtemps dominé le monde par sa technologie, par ses droits de l'homme, par ses conceptions de la démocratie. Aucune domination n'est éternelle. Il faut savoir que en 1980, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. Or, aujourd'hui, la Chine est le leader du commerce mondial.
Et oui.
Donc les choses changent, et changent vite.
Ils changent très vite, oui.
Et la Corée, par exemple, la Corée du Sud, avait les habitants de Corée du Sud dans les années 70 avaient le même niveau de vie que les pays pauvres d'Afrique noire.
Mmh. Aujourd'hui, ils sont très évolués, oui.
Donc, vous voyez, on est en train d'assister à un basculement vers l'Asie. Mmh. La question, c'est qu'est-ce que nous, la vieille Europe, avec nos principes, avec nos... Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Est-ce qu'on va prendre ce train? Ou est-ce qu'on va monter dedans? Est-ce qu'on va le regarder passer? Auquel cas, on finira par être déclassé? Ce sont des questions à lesquelles je n'ai pas de réponse, mais qu'il va falloir se poser.
Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que nous n'allons pas nous poser une question concernant cette petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Bernard Minier pour son dernier roman, ce dernier thriller M, le bord de l'abîme aux éditions Ixo. Alors, notre héroïne, votre héroïne, Moïra Chevalier, donc, elle est dans ce milieu, elle va rencontrer Mig, il va lui arriver tout un tas de choses, elle va se sentir espionnée, on disait, dès le départ. Toutes ces disparitions, ces morts, ces suicides, Ming semble assez terrifiant. On a l'impression que dans ce monde-là, quand on ne sert plus, quand on gêne, eh bien, on disparaît. Comment vous dire ? J'ai l'impression que oui, que voilà, l'humain doit être avant tout utile. Quand il ne l'est plus, eh bien, il doit disparaître.
Oui, et en même temps, j'ai absolument. Il faut préciser une chose, c'est pas du tout un techno-thriller.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des personnages, et ce sont les personnages, ils sont centraux, ils sont importants. Ce qui m'intéressait, effectivement, c'était l'impact de ces technologies qui sont d'ores et déjà dans notre vie de tous les jours et qui vont y être de plus en plus. L'impact de ces technologies sur mes personnages, sur leurs décisions, sur leurs choix, sur leur vie de tous les jours. C'est ça qu'on a non seulement Moira, parce que dans ce campus, en quelque sorte, qui est le centre de Ming,
Centre de Ming, oui.
se côtoient toutes sortes de nationalités, puisqu'on a Ignacio Esquer qui est espagnol, on a un personnage qui s'appelle Lester
Lester,
Timmerman
oui.
qui est irlandais, on a Tove Johansen qui est norvégienne, on a toutes les, comme du reste sur le campus de
tous
Google,
les campus du monde
Facebook,
entier et toutes les
voilà,
gènes. Oui, tout
se côtoient toutes ces campus de la nouvelle économie et de la nouvelle technologie numérique, se côtoient toutes les nationalités. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humain, c'est l'impact que ça a sur l'existence, nos existences au quotidien, sur les décisions qu'on est amené à prendre chaque jour. C'est ça qui m'intéresse au fond, c'est plonger des personnages dans cette réalité-là et voir comment ils réagissent. C'est pas non plus un roman où on parle sans arrêt de technologie.
Bien sûr.
Non, c'est un roman où les personnages
vivent, les personnages vivent, ont des
vivent,
émotions,
aiment
aussi,
ont des
oui.
émotions, ont peur, tremblent. Se battent aussi
se posent des questions, se posent des
contre
questions
l'adversité,
aussi.
Se réfléchissent, se posent des questions. Voilà, c'est avant tout un récit avec des personnages immergés, plongés dans une réalité.
Une réalité de monde virtuel, mais eux sont bien humains et ont envie de le rester parce que je me suis dit, bon, s'ils se posent toutes ces questions justement sur ce monde virtuel, sur ce monde artificiel, c'est parce qu'ils ont envie de garder cette humanité aussi.
Bien sûr, et c'est ça aussi que le message du livre, en quelque sorte, si pour tenter qu'il y ait un message, pour autant qu'il y ait un message, c'est que il faut absolument qu'on garde notre libre arbitre, qu'il faut absolument qu'on ne délègue pas tout à ces machines et à ces dispositifs, comme on le fait de plus en plus. Il faut qu'on garde le contrôle sur toutes ces choses-là et non pas qu'elles finissent par nous contrôler. Et encore une fois, quand je suis dans le train et que je vois tous ces gens-là sur leur téléphone, je m'inquiète un peu pour l'avenir, en particulier pour la nouvelle génération
oui.
qui sont de plus en plus dépendantes de ces technologies. Il faut que la technologie soit au service de l'homme et non pas que l'homme devienne esclave de la technologie. Et là, on est à un point crucial où il faut. Après, c'est pas mon livre, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je veux dire,
oui,
pas,
mais c'est toujours utile quand même, Bernard Minier.
Bien sûr, et c'est un récit et j'essaie de faire qu'il soit aussi palpitant, aussi
bien sûr.
Addictif, aussi
là, c'est réussi.
Possible.
Je vous rassure.
Bien sûr, merci. Mais je prétends pas que ça va changer les choses.
Oui.
Sauf que j'ai juste ajouter ma petite pierre à l'édifice,
mais
et plus on sera nombreux à se poser des questions,
bien
tant
sûr.
Mieux ce sera.
Justement, à travers de Moïra Chevalier et de ses compagnons, je dirais de toute nationalité, comme on le disait dans un campus, c'était aussi peut-être plus facile de vous. Alors, je ne fais pas de la psychologie à trois sous, bien évidemment, mais peut-être de vous, toutes ces questions qui vous. Certainement, peut-être qui vous taraudaient, questions que l'on se pose tous, une sorte de méfiance, une sorte de paranoïa collective tout en voulant rester humain. Est-ce qu'au travers de ces personnages, justement, ce n'était pas aussi vos propres doutes et vos propres questions au travers de ce roman que vous vouliez un petit peu retranscrire quelque part?
Ben oui, de toute façon, comme je l'ai dit, je n'étais pas du tout un spécialiste. Donc, quand
voilà.
il y a un an, j'ai décidé de me
Vous êtes formé et informé.
Pencher sur ces questions. J'ai
ouais.
appris des choses. Et ce que
ouais.
j'aime faire, du reste, dans tous mes romans, c'est apprendre des choses. Parce que j'aime bien me lever le matin et découvrir des choses nouvelles.
Bien sûr.
Donc, ce que j'aime faire, c'est apprendre des choses et en même temps les apprendre à mes lecteurs, les partager avec mes lecteurs. Mais c'est une découverte. Donc, au fond, ce personnage de Moira, qui est quand même une spécialiste de l'intelligence artificielle,
oui.
à la grande différence de l'auteur du faux roman que je suis, ou de
Vous
Martin
avez beaucoup
Servaz,
appris. Hein.
Mon personnage fétiche.
Ouais.
Néanmoins, elle arrive à Hong Kong, elle découvre ce mystérieux centre avec un C majuscule qui est le siège de Ming.
Ouais.
Elle découvre cette entreprise dans laquelle elle est amenée à travailler. Elle découvre Deus, ce agent conversationnel sur lequel elle va travailler.
Mm.
Donc, au fond, le lecteur et l'auteur ont découvert toutes ces choses-là en même temps
Ensemble.
Que Moira les,
ouais.
les découvrait.
Ouais.
Moira, c'est un peu le Candide hein, aussi.
Ouais.
Elle découvre aussi Hong Kong, elle découvre l'Asie, puisqu'elle découvre une culture différente de la nôtre. Donc il fallait absolument que ce personnage soit une jeune Française, qu'elle vienne de l'extérieur et qu'elle découvre tout ça en même temps que je l'ai découvert et que le lecteur va le découvrir.
Mmh.
C'était l'idée.
Mmh. Alors, on a envie aussi de se poser les questions. Il y a quand même beaucoup de morts, hein, des suicides, des gens qui disparaissent, des gens qu'on a suicidés, dirons-nous. Est-ce que justement ce monde de l'intelligence artificielle, ce monde asiatique, est-il un monde violent?
Alors, il est violent, c'est plutôt une violence psychologique. Enfin là, il y a les deux, hein. Dans le roman.
Oui, il y a les deux, il y a la violence physique et psychologique.
Aussi,
oui.
Il y a aussi à côté une enquête qui est menée par deux policiers.
Deux policiers, oui.
Un ancien qui s'appelle Elijah et un jeune qui s'appelle Chan, qui enquête sur des meurtres commis par quelqu'un qu'on appelle le prince noir de la douleur, dont ils s'aperçoivent rapidement que les victimes, dont les victimes ont pour point commun d'avoir tout travaillé à un moment ou à un autre chez Ming. Donc il y a quand même des meurtres, et quel meurtre. C'est une violence psychologique et c'est une violence en quelque sorte totalitaire, parce que ces géants de l'Internet, aujourd'hui, décident du destin des peuples, hein, et de chacun d'entre nous, en passant finalement par-dessus les gouvernements, par-dessus les États, par-dessus même les opinions publiques. Et ils ont des ambitions totalitaires au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'un État totalitaire, c'est un État qui veut décider de tout dans la vie de ses citoyens, tant sur le plan public que privé. Et au fond, c'est ce que font Google, c'est ce que font Facebook, ce que font leurs pendants chinois qui sont Baidu, Tencent, etc. Donc il y a cette violence-là qui est au fond, une violence totalitaire, une violence... on impose des choix de vie, on impose des choix d'existence à des peuples, par la séduction aussi, parce que toutes ces applications qu'on nous propose sont extrêmement séduisantes, sont extrêmement attractives. Une fois qu'on les a essayées, on n'a pas envie d'y renoncer. Mais c'est une forme de violence, c'est une forme de viol de nos consciences, de viol de notre libre arbitre, de notre liberté, parce que petit à petit, on abandonne des pans de plus en plus grands de ce libre-arbitre, de cette liberté, pour pouvoir bénéficier de ces merveilleuses applications qu'on nous vend en les enrobant dans une espèce de rêve et d'illusion. Oui.
Nous vend du rêve. De papier
avec du rêve, mais le prix à payer pour ce rêve est quand même très très élevé.
Oui, mais... Au-delà de ça, dans votre livre, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'amour, d'humour, de relations. On sent que l'humain, c'est important pour vous, et au-delà de cette intelligence artificielle, il fallait maintenir l'humain, il faut le raconter aussi. Et puis, ça donne une certaine douceur, de fait que ce soit Moïra Chevalier, cette jeune femme, ça donne une certaine tendresse et ça aide, si vous voulez, à ingurgiter tout ce côté un petit peu métallique, claquant et froid. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, pour moi, les émotions sont toujours essentielles, hein, dans un roman. Je l'ai souvent dit, c'est plus facile de faire entrer une idée dans une tête une émotion que par la raison, par le raisonnement. C'est du reste que ce que font les politiques tout le temps, ils font appel à nos émotions, ils essaient de provoquer notre colère, notre rejet, tout un tas d'émotions. Et là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'est parce que aussi, comme Hitchcock, j'ai une obsession, c'est la participation du public ou du lecteur. Je veux immerger le lecteur dans l'histoire, je veux que le lecteur éprouve ce qu'éprouve Moïra, je veux qu'il ressente ce que ressent Moïra, je veux qu'il réfléchisse avec elle. Et donc ça passe par toute une palette d'émotions. Il y a la peur, il y a la tendresse, même si elle n'est pas toujours évidente dans le roman. Il y a la violence psychologique aussi. Il y a l'espoir par moment. Il y a à l'inverse de la peur, il y a le courage aussi dont elle va faire preuve à certains moments. Elle et aussi le jeune policier qui s'appelle Chan. Voilà, ça passe par toute une palette d'émotions et puis c'est pas valable, c'est pas uniquement dans ce roman-là, c'est dans tous mes romans. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est d'abord les personnages. C'est d'abord prendre des gens qui sont ordinaires, finalement, et les plonger dans des situations extraordinaires, et ensuite voir comment ils se dépêtrent avec ça, comment ils s'en tirent, comment ils réagissent. C'est ça, au fond, moi, je manipule les petits égos de mes personnages, comme un peu comme des rats de laboratoire, et puis ensuite, je les laisse se débrouiller, et j'observe comment ils se tirent des situations dans lesquelles je les mets. Et c'est au fond le principe de tous mes romans.
Oui, mais le jeune Chan est très attachant. Moi, j'ai bien aimé suivre ce personnage aussi. Je l'ai trouvé très attachant.
Chan est un idéaliste, c'est quelqu'un d'intègre. Il vit dans un monde qui est assez corrompu. Hong Kong est une ville assez corrompue, même très corrompue. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de corruption. Il y en a un peu moins que par le passé, mais il y en a encore. Et il vit dans un monde qui est assez corrompu, qui est assez désabusé, puisqu'il a avec lui cet ancien policier proche de la retraite qui s'appelle Elijah, qui lui est revenu de tout, en quelque sorte. Et lui, c'est presque un moine soldat, c'est un guerrier. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un qui veut réformer la police, c'est quelqu'un qui veut réformer la société hongkongaise aussi,
oui.
Et qui est droit dans ses bottes et qui, en même temps, est, on ne va pas dévoiler quoi que ce soit,
non,
mais
non.
La rencontre Moira et Chan va évidemment faire des étincelles.
Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un livre, je dirais, percutant, tonitruant. Moi, j'ai eu du mal à en ressortir, mais comme à chacun de vos livres, aime le bord de l'abîme, je vais y arriver, aux éditions IXO. Je vous remercie infiniment, Bernard Minier. Je ne vais
Merci
pas vous demander si vous avez déjà d'autres projets, parce que je suppose que oui.
Oui, je pense que Servaz,
que
revenir. J'ai mis en congé à cette occasion,
va
a
revenir.
Très envie de revenir et puis avec impatience.
Très
donc,
bien.
Donc
on va retrouver Servaz dans un an à peu près alors.
Je suis en train de réfléchir à son retour, oui, sans doute en 2020, oui.
En 2020. En tout cas, c'était de nouveau un vrai plaisir de vous recevoir.
Merci
de nouveau d'être fidèle à délivrer vous pour ces deux ailes. Je rappelle donc le titre de votre livre, Aime le bord de la mime, aux éditions Ixio par Bernard Minier. À très bientôt. Et merci encore.
À grand plaisir, merci.
Merci, au revoir.